Bonsoir. Sans surprise, nouveau tour de vis monétaire aux États-Unis, le cinquième annoncé ce soir depuis l'élection de Donald Trump en décembre 2016. Oui, relèvement d'un quart de point des taux annoncé par la Fed et son nouveau président, Jérôme Powell, qui arrive dans un contexte bien particulier, un contexte dans lequel eh bien, l'économie américaine est dopée à la fois par la baisse des impôts décidée par Donald Trump et la hausse des dépenses publiques. Et vous le savez, ça rejaillit au-delà des États-Unis. Il sera donc très écouté, Jérôme Powell, car a-t-il dans les mains les clés de la croissance mondiale ? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, un numéro un peu spécial des décodeurs de l'écho pour suivre cette actualité, évidemment, de ce mercredi soir. Cet examen de passage pour le tout nouveau président de la Fed, hein, Jérôme Powell, que vous entendrez sur BFM Business d'ici à peu près 20 minutes, nos décodeurs de l'écho. Il y a ce soir Wilfried Galland, responsable de la stratégie de marché chez Neuflize OBC. Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Jean-Noël Vieille, stratégiste marché chez HPC. Et puis, depuis New York, je vais tout de suite lui donner la parole, c'est Grégory Volokhin, président de Mescard Financial Services. Grégory, tout de suite, les faits, en attendant d'écouter Jérôme Powell, les annonces, donc un relèvement d'un quart de point, et puis deux autres relèvements d'ici la fin de l'année 2018 et trois relèvements en 2019. Voilà ce qu'on retient d'ores et déjà.
Oui, alors l'exercice qu'il faut faire maintenant, c'est un peu couper les cheveux en quatre et voir qu'est-ce qu'il y avait de significatif dans ce communiqué aujourd'hui. Alors, il y avait plusieurs choses significatives. D'abord, un vote à l'unanimité pour remonter les taux aujourd'hui. Bon, on attendait une hausse des taux, mais au moins c'est à l'unanimité. Une prise en compte delta des programmes pro-croissance de Donald Trump. Pourquoi je dis une prise en compte? Ben tout simplement, tous les objectifs de croissance, d'inflation, de chômage sont revus à la hausse, évidemment, pour la croissance, à la hausse pour l'inflation et à la baisse pour le chômage. Ils sont revus aussi bien pour 2018 que pour 2019. Alors, vous me direz, est-ce que c'est une Fed qui devient plus agressive, plus hawkish? Et c'est là qu'elle a bien joué, qu'elle a été très subtile, parce qu'en fait, on voit très bien que tout en relevant ses prévisions de croissance 2018, 2019 et 2020, elle ne relève pas les prévisions du nombre de hausses des taux en 2018. On en reste toujours à 3, d'après ce qu'on appelle ces fameux dot plots. Par contre, elle indique qu'elle souhaiterait des taux plus hauts en 2019 que ce qui était attendu et plus hauts en 2020 que ce qui était attendu. Donc, c'est une façon assez subtile de préparer les marchés à une politique peut-être un peu plus agressive, mais pas pour demain. Et vous le savez aussi bien que moi, c'est très difficile de prévenir l'avenir dans l'économie à 6 mois. Alors, prévenir l'avenir à 2 ans en 2020, c'est pratiquement impossible. Ce qu'il faut retenir, surtout pour les marchés aujourd'hui, c'est 3 hausses des taux en 2018 avec une Fed qui constate que l'économie se porte vraiment bien.
Voilà, Grégory, évidemment, qui reste avec nous. Wilfried Galland, Neuflize OBC, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait une 4e hausse des taux en 2018? Est-ce que Jérôme Powell, quelque part, pour marquer son arrivée, il allait accélérer? Non.
Bah, c'était
3 finalement.
C'était finalement peu probable. C'était peu probable parce que pour sa première réelle décision à la tête de la réserve fédérale avec la conférence de presse qui va suivre, c'était prendre le risque d'avoir des turbulences sur les marchés financiers qu'il ne voulait certainement pas avoir. Après, ce qui va être intéressant, c'est voir effectivement comment est-ce que au cours de la conférence de presse, il va articuler son raisonnement. Là, on voit effectivement des prévisions qui changent. Comment est-ce que va se poser son diagnostic? C'est aussi là-dessus qu'on l'attend. On l'attend peut-être plus sur le diagnostic économique et sur la façon ensuite qu'il va avoir de communiquer sa politique monétaire plutôt que sur la décision en elle-même qui était très attendue. Il a choisi quelque chose finalement d'assez simple, d'assez attendu, c'est-à-dire vous attendez 3 hausses de taux. C'est dans les marchés, je vous confirme 3 hausses de taux. Et pour le reste, je pose un diagnostic plutôt positif, donc j'adapte ma politique monétaire. On va attendre de voir comment il va s'expliquer maintenant.
Comment il va s'expliquer dans un contexte très particulier, je le disais, donc avec une économie américaine qui est dopée par les décisions prises par le président américain, à la fois les baisses d'impôts, la hausse des dépenses militaires, hein, et puis aussi Alors, est-ce qu'il sera interrogé là-dessus? La guerre commerciale.
Bah, en fait,
menée par son grand patron.
C'est tout le débat. Ouais. Est-ce que cette fameuse économie sous pression dont parlait Janet Yellen, est-ce qu'elle va être artificiellement accélérée encore en termes de pression et non pas peut-être en termes de vitesse par à la fois une relance budgétaire dont on peut douter qu'elle soit vraiment pertinente à ce stade du cycle, premier élément du débat, et puis deuxième élément du débat, est-ce qu'effectivement on va pas réimporter de l'inflation via des hausses tarifaires, via une politique protectionniste, sans nécessairement construire de quoi augmenter la croissance derrière. Et ça, il est probable que durant sa conférence de presse, sur cette incertitude majeure que constitue la politique commerciale américaine, il va devoir au minimum prendre position, probablement pas trancher, mais prendre position, oui, certainement.
Il faut nous rappeler le contexte économique, Emmanuel Le Chypre, hein, des États-Unis, au moment où on se parle, donc en cette fin mars 2018. Hein, ce que dit la Fed ce soir, les perspectives économiques se sont renforcées ces derniers mois, justement, avec une révision à la hausse de la croissance, du PIB, révision à la baisse du chômage. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on en attend?
Bah, là, on voit bien qu'il y a un message fort quand même dans ce que dit la Fed, puisqu'on a des projections de hausse de taux d'intérêt qui vont jusqu'en 2020. Donc, le scénario aujourd'hui de la Réserve fédérale, c'est une économie américaine qui poursuit finalement sur un rythme de croissance presque de croisière. Hein. On est un coup au-dessus de 2,5, un coup en dessous, avec quand même très peu d'inflation, puisque les objectifs d'inflation ont été quand même à peine relevés. Donc c'est une économie dans laquelle on ne voit pas d'inflation, avec un taux de chômage très bas. Ça n'est pas d'une cohérence absolue. Il va falloir que Jérôme Powell s'explique. On est dans un scénario qui est quand même très Trump-friendly. Hein, c'est-à-dire que considérer qu'au bout de 7 ans de croissance, il n'y a pas de tension inflationniste, malgré le chômage qui baisse, etc. Le scénario que nous décrit la Fed, c'est un peu un monde merveilleux. Alors, ça ne veut pas dire que effectivement la Banque centrale américaine, ça ne veut pas dire que l'économie américaine est au bord de la récession. Mais enfin, on a l'impression quand même que sur chacune des variables, on a choisi un scénario relativement optimiste. Sachant que le scénario optimiste, c'est de prévoir une croissance relativement plus forte, mais pas beaucoup plus forte. Quand vous regardez les calculs qu'ont fait les experts de l'INSEE, par exemple, qu'ils ont publié dans leur note de conjoncture sur l'impact du programme de Donald Trump,
ce que vous disiez
sur l'économie
Stéphane,
américaine, ce que ça va rapporter, ce que ça peut générer en termes de consommation des ménages, ça peut aller jusqu'à 0,8 point de PIB en 2019 et 2020, que ce que ça peut générer en investissement des entreprises, c'est à peu près du même ordre. Et donc de dire que le programme de Trump ne rajoute que quelques dixièmes de points de croissance supplémentaires, c'est pas un scénario qui est extrêmement fort. Donc je trouve que la Fed, elle a retenu un scénario rassurant. Hein, avec une croissance qui reste soutenue, mais pas trop, une inflation qui accélère à peine, et un taux de chômage toujours bas, en gros sans déséquilibre. C'est peut-être une vision un peu trop rose, parce que si vous avez soit l'un, soit l'autre, qui est plus élevé que prévu, ça peut être plus compliqué pour les marchés.
Un peu trop rose, peut-être, Jean-Olivier. C'est vrai que on connaissait déjà en décembre les prévisions pour 2018 de 2,5% qui avaient déjà intégré donc les baisses d'impôts décidées par Trump. Depuis, l'administration a rajouté 300 milliards de dépenses militaires sur 2 ans, ce qui va encore stimuler l'économie. Et puis, ce qui a été annoncé il y a 2 semaines par le président américain, les sanctions à venir visant la Chine, visant l'Europe, peut-être spécialement l'Allemagne, je ne sais pas. Et ça aussi, ça pourrait freiner cette reprise.
Oui, absolument. C'est-à-dire
il va être attendu là-dessus, Jérôme Powell.
Il va être beaucoup attendu sur effectivement l'impact de ces mesures protectionnistes. Et je ne sais pas si on a raison de faire cette distinction 3 hausses de taux et 3 en 2019, parce que finalement le message c'est quand même qu'on aura bien une hausse de taux supplémentaire sur les 2 années. C'était une des questions qu'on avait, puisqu'au début c'était 3 et 2.
Ah, c'était 3 et 2, d'accord.
Oui, donc on a bien une augmentation. Il faut bien voir aussi que, de mon point de vue, on était en retard un peu. Janet ne pouvait pas, en sortant en janvier, on avait quand même le sentiment que cette hausse aurait pu avoir lieu dès janvier, simplement comme elle partait, elle ne pouvait pas le faire. Donc moi, ce que risquent de retenir les marchés, c'est quand même une politique effectivement monétaire un peu plus, disons, un peu moins accommodante.
Bien sûr.
Donc,
davantage sur le vice, ouais.
Est-ce qu'on aura un impact un peu plus sérieux? Et je suis pas sûr que on se contente de se dire bon, on est tranquille sur 2018 et on verra ensuite sur 2019. Après, sur la croissance, effectivement, on peut s'attendre quand même si la guerre, si on rentre, on n'est pas encore là, mais si on attaque plus la Chine. Pour l'instant, les mesures sur l'acier, qui sont des mesures, on voit bien que l'impact aujourd'hui est relativement modéré. Mais si, visiblement, c'est la Chine qui est maintenant dans le collimateur, donc de la part de Trump. Si effectivement, on rentre dans une logique un peu plus difficile en termes de guerre commerciale, il peut y avoir un impact sur la croissance mondiale. Et il est évident que les États-Unis ne tiendront pas sur les 2,5 de croissance. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder finalement l'évolution du dollar. Parce que si on croit vraiment à un impact important de la hausse des taux, on devrait avoir un dollar qui se raffermit. Or, c'est pas tout à fait le cas. On est toujours, et moi, c'est toujours une interrogation que j'ai. C'est souvent là-dessus où on s'est trompé. Pourquoi le dollar ne monte pas? Puisque si on a une hausse des taux, il doit y avoir, les investisseurs doivent aller chercher, surtout qu'on aura bien un différentiel avec l'Europe, parce qu'il est hors de question qu'on ait une hausse des taux en Europe, et normalement, ça doit faire décoller le dollar, ce qui ne marche pas.
Pour l'instant, le dollar baisse au moment donc, eh bien, où on se parle, hein, 19h24, donc, alors qu'on sait depuis 24 minutes le relèvement donc d'un quart de point. Ouais. Des taux, et cette annonce donc en effet deux autres relèvements d'ici la fin 2018 et trois donc en 2019. Les marchés sont à la hausse aux États-Unis, plus 0,8% pour le Dow Jones qui se rapproche des 25 000, plus 0,4% pour le Nasdaq, donc 0,4% pour le Nasdaq. 0,3% pour le Nasdaq. 0,4% pour le Nasdaq. Voilà, je m'étais trompé à 7400. Alors, qui prend? Tiens, tout le monde me demande la parole. Emmanuel Le Chypre.
Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Je sais pas, vous me faisiez signe. Wilfried, allez-y, Wilfried Galland.
En fait, je pense que le sujet, effectivement, qui va intéresser beaucoup les investisseurs, c'est la projection à la fois économique et inflationniste de Jérôme Powell, non seulement sur 2018, mais sur 2019. Parce que l'interrogation fondamentale, elle est sur le cycle économique américain. C'est-à-dire, est-ce que ce cycle est en bout de course? On sait qu'il est plutôt dans la dernière phase, mais est-ce qu'en fait on va s'arrêter plutôt en 2019 ou plutôt en 2020? Et en fait, là où il est intéressant, c'est il nous dit « je vais continuer à augmenter mes hausses de taux ». Néanmoins, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il va argumenter en termes de croissance économique et en termes de contexte inflationniste le fait que sur 2019, effectivement, il poursuit son rythme de hausse, alors qu'en fait, on voit pas tellement comment est-ce que le potentiel productif de l'économie américaine va croître avec les mesures de Donald Trump. Ça va être intéressant. C'est aussi peut-être ce qui explique que les marchés sont certes positifs, n'ont pas l'air euphoriques, hein, aujourd'hui. Quelques 20 minutes ou 25 minutes après l'annonce, ils attendent en fait d'avoir les explications. Je pense que l'essentiel de la valeur va être dans les explications qu'on va avoir durant la conférence de presse.
D'ici 5 minutes sur BFM Business, à suivre Emmanuel Le Chypre, et puis on retournera à New York retrouver Grégory Volokhin.
Non, c'est vrai que sur le dollar, le vrai sujet, c'est quand même qu'on a l'impression que on a des États-Unis qui s'engagent dans une politique délibérée de déficit jumeaux, comme on le dit. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un énorme déficit budgétaire qu'ils creusent, ils ont un énorme déficit commercial, et on a l'impression que dans l'idée de Donald Trump, il y a quand même un petit peu cette volonté d'attirer l'épargne mondiale aux États-Unis pour financer finalement ces déficits extérieurs. Et c'est là où on est quand même dans un numéro d'équilibriste quelque part. C'est-à-dire que vous voyez bien que tous les objectifs ne pourront pas être atteints en même temps dans une célèbre figure qui est le triangle d'incompatibilité. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir tous les objectifs en même temps. Si vous voulez être compétitif, il vous faut un dollar faible. Mais si vous voulez attirer les investisseurs internationaux, il vous faut un dollar plutôt assez fort. Donc, vous voyez bien qu'il y a des objectifs contradictoires. Et je pense qu'on sera, ça va être difficile parce qu'on sera en permanence dans l'année sur ce fil du rasoir entre c'est intéressant, on va aux États-Unis, les effets des mesures protectionnistes et cette idée que si vous voulez éviter l'inflation, il faut un dollar plutôt fort et qu'en même temps, si vous voulez être compétitif, il faut un dollar plutôt faible. Donc, ça va quand même être assez compliqué à gérer finement.
Jean-Noël Vieille, HTC.
Et je, je rajouterai deux points. C'est la dette américaine qui atteint le plafond. Si en plus les Chinois ont dit que si on les agaçait un petit peu d'un point de vue commercial, ils arrêteraient peut-être d'acheter des petits bonds américains. Donc qui va acheter cette dette américaine? Et dans ce cas-là, ça peut poser problème. Et un dernier mot aussi sur la réaction des marchés. C'est compliqué d'imaginer quand même que les marchés vont continuer à monter, surtout aux États-Unis, parce qu'on est quand même dans des niveaux de valorisation qui ont déjà, on a déjà tout intégré positivement. La réforme fiscale, etc. On est dans des marchés extrêmement élevés, beaucoup plus élevés qu'en Europe. On a des niveaux de valorisation. Alors je passe les fameux GAFA qui sont à des niveaux incroyables. Mais on a du mal à imaginer quand même que les marchés financiers américains, devant en plus un aléa politique aussi qui va être important avec les prochaines élections
de mi-terme en novembre.
Ça va quand même, tout ça va quand même être assez compliqué.
Alors Grégory Volokhin à New York, explication toujours avec vous. En attendant, Jérôme Powell sur BFM Business. Ah, Grégory. Non, eh bien Grégory ne nous entend pas.
Oui, je vous entends.
Allez-y, je vous écoute.
Si, je vous entends. D'accord. Non, mais je crois que ce que disait Emmanuel Le Chypre est très, très juste. En fait, c'est une fête qui dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, dans ses projections. C'est un peu idyllique ce qui se passerait en 2019 et en 2020. Cette belle croissance, ce chômage qui diminue, toujours pas d'inflation, on n'a pas besoin de trop monter les taux. La réalité, c'est que, en fait, et Jérôme Powell le sait très bien, qu'est-ce que lui, il maîtrise? Ben, en gros, ce qu'il maîtrise, c'est ce qu'il sait actuellement. Ce qu'il sait actuellement, c'est les chiffres qu'il a actuellement. Et basé sur les chiffres qu'il a actuellement, il peut justifier ces 3 hausses de taux cette année, très difficilement s'engager à quoi que ce soit d'autre. Donc je dirais que on peut passer maintenant des heures à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer en 2019 ou en 2020? La première question, c'est que par exemple, en 2018, on a des élections où peut-être les Républicains vont perdre la majorité aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les démocrates, la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de voter l'impeachment de Donald Trump. Il se prépare à ça. Donc il y a tellement d'inconnus, je dirais, si on passe à l'année prochaine et à 2020, que tenons-nous à commenter ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, pour le moment, je dirais, c'est une économie américaine qu'on peut dire dans un état franchement excellent. Et on peut aussi dire que la Fed ne risque pas de casser la machine pour le moment. Elle ne montre aucune intention ni crainte d'avoir perdu le contrôle de l'inflation, par exemple. Et je dirais ça, c'est vraiment important. C'est ça qui rassure les marchés. Et puis, c'est ça qui déçoit, je pense, les traders au niveau du marché des changes. C'est pour ça qu'ils ne voient pas vraiment une raison de garder des positions longues dollars aujourd'hui. C'est peut-être une des conclusions qu'on pourrait avoir pour le moment.
Restez avec nous, Grégory Volokhin. On va se retrouver dans 10 minutes, un quart d'heure. On va écouter dans un instant les premiers mots de la conférence, la toute première conférence de presse de Jérôme Powell, nouveau président de la Fed, donc arrivé pour succéder à Janet Yellen il y a quelques semaines. On l'écoute et puis on revient sur BFM Business. À tout de suite, ce sont les décodeurs de l'écho.
Le marché du travail reste soutenu, l'économie continue à se développer, l'inflation évolue vers l'objectif à long terme de 2%. Nous avons décidé aujourd'hui d'augmenter le taux du comité directeur d'un quart de pourcentage pour amener à 1,75%. Il s'agit de réduire la politique d'accommodation monétaire, un processus qui est en cours depuis quelques années. Les gains d'emploi sont de 140 000 par mois, supérieurs au rythme à long terme pour absorber de nouveaux entrants. Le taux de chômage reste faible à 4,1% en février, alors que le taux de participation a augmenté au cours des 4 dernières années. Le taux de participation reste inchangé. C'est un signe d'amélioration, étant donné que le vieillissement de la population fait peser un poids sur ce taux. Le marché de l'emploi restera soutenu. Même si les taux de croissance d'investissement des entreprises se sont ralenties, les gains des quatrièmes trimestres sont bons. La perspective économique s'est raffermie ces derniers mois. De nombreux facteurs appuient cela. La politique budgétaire est relancée. Les gains au niveau du marché de l'emploi se poursuivent et les conditions financières restent accommodantes. Dans ce contexte, l'inflation reste inférieure à notre objectif de 2%. 5%, les prix à la consommation, mesurés par l'indice, a progressé de 1,7% au cours des 12 derniers mois. L'indice des prix qui exclut l'énergie et l'alimentation est un meilleur indicateur d'inflation à progressé de 1,5%. Comme nous l'avons constaté, l'insuffisance d'inflation par rapport à 2% reflète des baisses de prix qui sont intervenues il y a un an. À mesure que ces baisses sortent du calcul, l'inflation devrait se stabiliser autour de 2% à moyen terme. Bien sûr, différentes forces pèseront sur l'inflation qui pourrait dépasser parfois 2% ou même en deçà. Notre objectif est symétrique en ce sens que nous essayons de prévenir des déviations par rapport à 2%. Sur la base des projections des participants, la projection médiane du PIB ajusté pour l'inflation est 2,7% cette année, 2,4% en 2019 et 2% en 2020. La projection médiane pour le taux de chômage s'élève à 3,8% au quatrième trimestre cette année et à 3,6% pour les deux années, presque 1% inférieur à ce taux médian de progression. La projection médiane de l'inflation est 1,9% cette année, 2% en 2019 et 2,1% en 2020. Par rapport aux projections de décembre, le taux de chômage est en baisse et l'inflation est légèrement supérieure. Comme je l'ai indiqué, la décision aujourd'hui d'augmenter le taux directeur est un autre processus de réduction de la politique accommodante sur le plan monétaire. Ce processus est en cours depuis deux ans et a servi et va continuer à bien servir l'économie. En prenant nos décisions au cours des prochaines années, nous allons continuer à viser une inflation de 2% tout en maintenant l'expansion économique et un marché du travail soutenu. Des hausses graduelles des taux directeurs vont favoriser cet objectif. Si on augmente les taux trop lentement, ça pourrait provoquer un resserrement trop brutal qui mettrait en péril l'expansion. On souhaite avoir une inflation inférieure à notre objectif qui nous laisserait moins de marge pour contrer une baisse économique à l'avenir. Les projections des participants pour la trajectoire reflètent notre approche graduelle. La projection graduelle est de 1% en fin d'année, 2,9% en fin 2019 et 3,4% à fin 2020. À l'horizon 2020, le taux directeur est supérieur à sa tendance supérieure à long terme. La plupart des participants ont révisé à la hausse leurs projections depuis décembre, alors que la projection médiane reste inchangée. Les médianes pour 2019 et 2020 sont un petit peu plus élevées par rapport à cet été. On va suivre l'évolution de l'économie au cours des années à venir par rapport à nos objectifs de prix. Si la perspective évolue, on ajustera la politique monétaire en conséquence. Notre programme de réduction du bilan se poursuit sans heurts. Sauf affaiblissement de la conjoncture, nous n'allons pas modifier notre programme. Comme nous l'avons dit, modifier la cible pour le taux directeur est notre moyen principal. Comme toujours, le comité serait prêt à utiliser tous ses outils si les conditions devraient exiger cela plutôt que simplement de réduire le taux directeur. Merci, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.
Voilà, quelques questions posées à Jérôme Powell. On va les suivre. Et la réponse du président de la Fed, juste ensuite.
Interesting changes in the forecast.
Alors, des changements intéressants dans vos prévisions. Un taux de croissance un point supérieur à long terme. Le taux de chômage inférieur. Très peu de changements dans l'inflation. Qu'est-ce que ça dit quant à votre analyse de la dynamique en matière d'inflation? Comment se fait-il dans ce contexte? Vous justifiez trois hausses cette année et trois l'année prochaine et une réduction de 600 milliards dans le bilan. Vous pensez aller trop loin ou pas assez au niveau des taux? Vous avez raison, la conjoncture s'est améliorée. comme vous l'indiquez dans votre question, les estimations de croissance ont augmenté, le chômage a baissé, une légère hausse de l'inflation. Je pense que ça reflète, si vous songez à l'ère après la crise, le chômage était à 10%, maintenant à 4,1%. Il y a eu très peu de pression à la hausse sur les salaires, malgré cette forte hausse, ce qui donne à penser que la relation entre les changements de sous-emploi et d'inflation ne sont pas aussi serrés. Ça a baissé, mais ça reste présent. Lorsque vous voyez ces petits changements au niveau du chômage, ça reflète tout simplement le caractère assez plat de la courbe de Phillips. Alors, vous craignez de faire trop peu ou pas assez? On essaie de garder l'approche médiane. D'un côté, le risque, c'est qu'on attend trop longtemps avec une hausse brutale des taux, ce qui coupe court à l'expansion. On veut éviter cela. D'un autre côté, si on augmente les taux trop brutalement, l'inflation ne va pas atteindre 2%. Ça risque de peser à l'avenir. Et il faut donc veiller à ce que les attentes inflationnistes soient ancrées à 2%. On essaie de prendre ce chemin médian et nous pensons effectivement que cela passe par des hausses des taux graduelles tant que l'économie suit sa trajectoire.
Voilà, on va revenir dans un instant à Washington, cette conférence de presse de Jérôme Powell, président de la Fed. Wilfried Galland, donc, Neuflize OBC. C'est quoi le diagnostic donc de Jérôme Powell? Comment il y répond justement? Comment il se positionne? Il parle d'un chemin médian, il parle de hausse de taux graduelle. Comment est-ce qu'il justifie tout ça?
En fait, il nous dit d'une part, effectivement, l'économie américaine va bien. Il le répète, en insistant assez longuement d'ailleurs sur la qualité du marché de l'emploi.
L'emploi, exactement. Un marché du travail soutenu.
Voilà, un marché de l'emploi soutenu et où il insiste sur le fait que on est en train de remettre au travail, via le taux de participation, un certain nombre de personnes qui, effectivement, ne se déclaraient plus comme étant en recherche d'emploi. Et ça lui permet de dire, il n'y a pas aujourd'hui les pressions inflationnistes via la fameuse courbe de Phillips, il l'a mentionné à la fin de son intervention, donc il n'y a plus ces courbes en fait de schéma prix salaire qui se déclencheraient et qui m'obligeraient à aller plus vite que ce que j'ai que ce que j'ai prévu. En revanche, là où en fait il est finalement assez il reste assez sur le point médian, c'est il insiste longuement sur le côté symétrique de son approche. Moi c'est un mot qui me frappe, il dit moi je suis tout autant vigilant sur le fait que l'inflation atteigne ou dépasse les 2% ou qu'elle n'atteigne pas les 2%. Et globalement, j'essaie d'avoir une approche équilibrée, ce qui explique le fait que par rapport à un marché de l'emploi qui aujourd'hui montre que les équilibres se font, j'ai pas besoin de déséquilibrer mon approche en termes de politique monétaire par rapport à ce que j'avais promis. La question qui va se poser, évidemment, c'est par rapport à la projection de son taux de chômage qui est visiblement de 3,9, 3,8 8, et donc il descend alors qu'il nous a dit que le taux de plein emploi aux États-Unis qui était probablement entre 4 et 4,5%, il nous l'a dit lors de son audition face au Congrès il y a quelques semaines, il va devoir quand même s'expliquer sur comment est-ce que c'est possible d'avoir un taux de chômage qui descendrait à 3,6, 3,7, 3,8% sans avoir d'accélération inflationniste. Je rappelle que le taux de participation, il a longtemps été entre 62,7 et 63% depuis 2 ans. On est à 63%. On est juste au sommet de ce canal. Si jamais on dépassait ce canal et qu'on allait vers 64%, 65% de participation, alors il se passait quelque chose. Aujourd'hui, on peut pas encore dire qu'il se passe quelque chose.
Jean-Delvieille, l'inflation va se stabiliser à 2%, hein, nous disait-il, au-dessus, en dessous des 2%. Il y a différentes forces qui pèsent sur l'inflation.
Ouais, mais c'est là où...
Lesquelles?
C'est là où moi je comprends pas très bien, parce que... Très honnêtement, l'inflation, il y a deux facteurs principaux. C'est effectivement les salaires,
bien sûr,
et les matières premières. Bon. Si on est dans une dynamique, si on l'écoute, moi je trouve qu'il y a une incohérence. Si on est dans une dynamique, effectivement, qu'on voit d'accélération de croissance du PIB, on est certain en 2018, on ne sait pas ce qui va se passer en 2019, je suis d'accord. On sait que le marché du travail se tend. Rappelez-vous quand même qu'en janvier, les marchés ont été secoués parce qu'il y avait une hausse des salaires qui était très forte. Vous écoutez les entreprises aujourd'hui, le discours des entreprises aux États-Unis, c'est effectivement qu'il commence à y avoir un problème pour trouver des emplois.
Donc des signes de pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
Voilà, ouais. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une tension sur les salaires.
Ouais.
Et s'il y a une donc là, je ne comprends pas. Il doit y avoir logiquement une inflation beaucoup plus forte. Et en plus, si la croissance est là, il y a aucune raison pour que les matières premières, le deuxième facteur important, ne montent pas. Donc il y a une incohérence sur ce chiffre de l'inflation. Je veux bien qu'on tienne ce discours. C'est pour ça que finalement on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une quatrième hausse de taux. Moi je pense que la Fed fait une erreur là de ne pas faire une quatrième hausse de taux en 2018 pour éventuellement se retrouver avec une marge de manœuvre dans une économie 2019 dont on sait très bien que ça sera peut-être beaucoup plus compliqué. Et là, je trouve qu'il y a une incohérence.
Alors, Emmanuel Lechypre, court, Grégory Volokhin court, et on entendra à nouveau le président de la Fed.
Il est probable que le fait que ce soit quand même sa première décision et sa première intervention n'est pas neutre dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, on sent tout au long de son discours, dans les chiffrages et dans les actes, cette volonté de s'inscrire dans une forme de continuité. Et je crois qu'une de ses premières volontés, c'est quand même de faire de la réassurance, de rassurer les marchés, sachant que quand même la pédagogie de la baisse du taux de chômage à partir duquel l'inflation s'accélère, a quand même été très bien faite par Janet Yellen, qui était une spécialiste du marché du travail. Donc je pense que le fait de pas dire qu'il fera une quatrième hausse de taux s'inscrit dans cette trajectoire. Ensuite, quand vous regardez la façon dont évoluent les taux d'intérêt à long terme, par exemple, on peut dire qu'il y a une partie de cette accélération de l'inflation que Jean-Noël attend, qui est déjà dans les marchés. Et donc il se dit, au vu de la réaction des marchés, de ce qu'anticipent les marchés sur l'inflation à long terme, je ne suis ni en retard, ni en avance, je suis plutôt dans le bon timing. Et donc la volonté qu'on entend dans cette... parce qu'en fait, il prolonge beaucoup, encore une fois, hein, les trajectoires sur la croissance, sur l'inflation. Et ce qu'il nous dit, en fait, surtout, c'est que il n'y a pas beaucoup de risques. Et c'est vrai que quand on regarde les grands fondamentaux de l'économie américaine, aujourd'hui, il n'y a pas de déséquilibre majeur. Reprenez la situation financière des ménages qui était si critique en 2007-2008. Elle s'est aujourd'hui considérablement améliorée. Et donc, ce qu'on sent surtout, c'est sa volonté de dire, attendez, je reconstitue les marges en augmentant les taux d'intérêt pour nous préparer à avoir du potentiel pour baisser les taux lors de la prochaine récession.
Allez, la conférence de presse de Jerome Powell, on continue.
La conséquence pour la politique monétaire, c'est donc votre première conférence de presse. Souhaitez-vous renouveler cet exercice plus souvent? Les valeurs à plus long terme, telles le taux neutre d'intérêt, le taux naturel de chômage, taux de croissance potentielle de l'économie, sont arrimées par des forces qui évoluent lentement dans le temps. Je ne m'attends pas à ce que les projections, les estimations du comité évoluent rapidement. Est-il possible que le taux d'intérêt neutre évolue en raison de l'expansion budgétaire? Il y a des raisons qui pourraient pousser à cela. Il y a eu une hausse d'un dixième, comme vous l'avez constaté au niveau de la médiane. De façon générale, le comité voit le taux d'intérêt comme étant assez faible et ne constate pas d'évolution, est ouvert à la possibilité que ce taux évolue. Conférence de presse, oui. Alors, c'est quelque chose que je vais envisager avec soin. Je n'ai pas pris de décision. Mes collègues et moi-même, nous sommes engagés à communiquer clairement sur notre action. J'y réfléchirai avec soin et je verrai à ce que personne n'interpréterait des conférences de presse plus fréquentes comme indiquant l'évolution de la politique, mais je vais y réfléchir avec soin.
Adam Shapiro, ça c'est intéressant, juste Wilfried Galland, et je donnerai la parole à Grégory Volokhin. Il veut communiquer clairement, il s'engage pas s'il fera ou pas des conférences de presse. Il y a juste un truc qui manque pour l'instant, c'est son bureau autour de lui.
Exactement.
Son équipe n'est pas constituée.
Exactement, en fait, une des choses également qui explique une prudence, en tout cas une très grande continuité dans ce qu'il dans son discours, c'est que finalement l'équipe qui doit constitué, hein. En particulier aujourd'hui, il n'y a pas de vice-président à la Fed, hein. Il est en cours de nomination. En fait, aujourd'hui, c'est un peu une fête de transition qu'il a. Probablement en septembre, il aura quelque chose d'un petit peu plus, consistant, un petit peu plus étoffé. Donc là, effectivement, il manque peut-être autour de lui d'avoir des gens qui vont épauler cette politique, épauler cette analyse dans un contexte qui n'est pas simple. J'écoutais des analyses sur l'économie américaine. Il y a des signes de fragilité de l'économie américaine. Quand vous regardez les mises en chantier au niveau du logement, c'est pas des chiffres exceptionnels. Quand vous regardez les ventes de détail, c'est pas des chiffres exceptionnels. Donc aujourd'hui, on peut pas dire qu'on a vraiment un élan extraordinairement puissant. On est bien, on n'est pas non plus en accélération forte.
Un mot, Grégory Volokhin, depuis New York.
Oui, je pense qu'il faut savoir lire les chiffres. Vous parlez de la construction et du logement. On sait très très bien que le problème des mises en chantier, c'est que, un, on ne trouve pas la main-d'œuvre qualifiée nécessaire, que donc les constructeurs, tout simplement, ne peuvent pas faire le nombre de projets qu'ils voudraient. Par contre, quand vous regardez les ventes de maisons qui sont déjà construites, elles sont très fortes, elles étaient même beaucoup plus fortes que prévu ce matin, et les prix continuent à monter. Donc le logement se porte très très bien. Quand on parle de la pression sur les salaires, il faut vraiment savoir aussi quelque chose, c'est qu'on manque de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs, d'accord. Mais quand on manque, par exemple, de main-d'œuvre, disons qu'on a besoin d'un plombier, on n'augmente pas le salaire, on cherche le plombier. Et s'il n'y a pas de plombier, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Et c'est ça le vrai problème dans l'économie américaine. C'est pas qu'on se bat pour quelques personnes, c'est qu'il manque des tas de gens qualifiés pour certaines tâches. Et ça ne met pas de pression sur les salaires. Donc je dirais non, il faut avoir une lecture à la fois positive de cette économie, mais en voyant que pour des vraies raisons, il n'y a pas de pression sur les salaires. C'était un grand mystère pendant des années. Ça risque de rester encore une grande question. Pourquoi ces salaires n'augmentent pas plus rapidement? Et ça, c'est pour des raisons, comme je le disais, à la fois démographiques, etc., etc.
Alors, de New York, Washington, Jerome Powell, président de la Fed.
We look at those as informing the decisions of the policymakers.
Alimentent les décisions des responsables. Et c'est vrai. Ce sont les points de vue des responsables que nous évoquons au sein du comité. C'est une prévision qui est réalisée dans des conditions particulières. Ce sont les responsables ensuite qui créent leurs prévisions, qui influencent la politique. Cette relance budgétaire a dû avoir un impact sur vos discussions. La relance budgétaire est un outil majeur pour les travaux du comité compte tenu des changements, et les responsables individuels ont parcouru toute une série d'estimations dans la littérature et ont élaboré leurs estimations comme projections. Ce sont nos projections.
Un mot, Wilfried Galland, le Dow Jones qui ne gagne plus que 0,1% à 24 780 points.
Oui, je pense qu'il reste aussi, comme les investisseurs, il reste aussi en attente. C'est-à-dire que globalement, on manque d'élan, on manque de conviction. Aujourd'hui, Jérôme Powell se situe vraiment dans une longue tradition de la Fed. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu aujourd'hui d'élan sur le diagnostic, par exemple, économique de la réserve fédérale, qui nous permettrait de dire cette fameuse course entre la croissance et l'inflation, c'est bien la croissance qui va gagner et c'est pas l'inflation, ou il y a absolument pas de pression inflationniste. On a l'air de pas être totalement convaincu non plus. Et aujourd'hui, maintenant, à l'heure où je vous parle, le Dow Jones est
dans
en
le rouge.
Perte.
Voilà, est en perte légèrement. Jean-Noël Vieille.
Oui, c'est un peu ce que je disais précédemment. Je pense qu'effectivement, on risque de finir dans le rouge parce que d'abord, à mon avis, ce qu'on va retenir, c'est une hausse quand même supplémentaire de taux, avec donc mathématiquement, ça peut normalement, ça fait baisser les valorisations. Après, est-ce que ces hausses de taux peuvent avoir un effet négatif sur la croissance? C'est ça que l'on va peut-être un peu plus intégrer demain. Donc, c'est pas forcément. Moi, je trouve qu'il a pas été forcément très très convaincant.
Examen de passage raté, quand même pas, Emmanuel Le Chypre. Hein.
Non, parce qu'il a fait le minimum en matière de réassurance. Là où sa vision de l'économie américaine est sans doute un peu biaisée, c'est que il donne cette impression un petit peu rectiligne hein, des trajectoires, que ce soit sur la croissance, l'inflation, le taux de chômage. Or, l'économie, ça n'est jamais comme ça. Alors, c'est vrai que ce cycle est particulier. Ce cycle, il est extrêmement long. Ça va être le plus long de l'histoire de l'économie américaine. Mais ce qu'on voit, c'est que la mécanique classique du cycle n'a pas disparu. Ce cycle, il est considérablement étiré dans le temps. Il est considérablement limité en amplitude. Mais les phénomènes cycliques n'ont pas disparu. C'est-à-dire que les phénomènes qu'on voit toujours en fin de cycle sur le niveau d'autofinancement des entreprises, sur le niveau d'investissement des entreprises, sur les salaires, etc., on finit par le voir. Donc tout ça va s'étirer sur une période encore assez longue, sans doute peut-être encore 2 à 3 ans. Mais en tout cas, cette vision totalement rectiligne de la trajectoire de l'économie américaine est sans doute un petit peu excessive et caricaturale.
Voilà, et il est interrogé en ce moment sur la politique commerciale. Je ne sais pas si on y retourne. Quelques instants, Jérôme Powell.
In terms of productivity, de riposte de part et d'autre,
la productivité est faible de l'ordre de 5% depuis 6 ans, donc ça c'est bien en deçà des moyennes à plus long terme, et il serait bon de voir une évolution à la hausse.
And, you know, you asked me about fiscal policy and the connection to productivity.
Vous parlez de la politique budgétaire et son lien avec la productivité.
Voilà, on va bientôt se quitter. Ce que disait Jérôme Powell il y a quelques instants, c'est que la Fed ne croit pas que des changements dans la politique commerciale puissent affecter les perspectives. Un mot chacun pour terminer. C'est vrai que il avait été assez réservé quand même sur les mesures prises par Donald Trump lors d'une conversation donc devant le Congrès. C'est pas forcément la bonne approche. Alors est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'il voulait rentrer à nouveau en conflit ou pas avec le président Trump? Je suis pas sûr, hein, Wilfried Gallant.
Oui, c'est assez paradoxal ce qu'il vient de déclarer. On sait tous que s'il y a effectivement des tensions commerciales très fortes, on va avoir des impacts économiques qui seront réels, en particulier sur l'économie américaine via l'inflation. Il faut pas oublier que dans les fameux coûts de construction dont on parlait tout à l'heure, le fait que les coûts de construction aient augmenté aux États-Unis, c'est largement lié à une augmentation des droits sur le bois en provenance du Canada. Et ça a eu un impact direct sur le prix, et d'où les mises en chantier. Et donc à un moment donné, il y a un impact direct. Et dire aujourd'hui la politique commerciale n'aura pas d'impact direct, on reste sur notre faim. Voilà, on reste sur notre faim.
Vous aussi, Grégory Volokhin, vous restez sur votre faim, puis on va se dire au revoir, et puis on débriefera évidemment tout ça dans After Business et avec Stéphane Soumier demain matin, donc ce jeudi matin. Allez-y, Grégory.
On n'est pas au même horaire. Je suis plutôt convaincu par son discours. J'aime la symétrie, j'aime le fait qu'il soit pragmatique et j'aime le fait surtout qu'il soit pas idéologue et qu'il laisse la porte ouverte à développer sa pensée dans le futur. Donc de dire qu'il a raté son examen de passage parce que tout d'un coup le Dow Jones baisse de quelques points, je pense que ça c'est vraiment aller un peu rapidement. Au contraire, je pense qu'il montre qu'il est différent de Janet Yellen, mais qu'il est convaincant et qu'il maîtrise très bien son dossier.
Bon, Emmanuel a été surtout déçu. Il n'a pas dit que c'était raté complètement, hein, Emmanuel.
Moi j'ai pas dit que c'était raté complètement. Je trouve que là, ce qu'on sent très fort quand même dans cette première expression, c'est la volonté de ne fâcher personne, ni les marchés, ni le président, et d'éviter tous les sujets un petit peu anguleux.
Allez.
Oui, moi, si j'ai un message en termes de stratégie d'investissement, moi, ça me confirme quand même sur le fait de considérer que les investissements sur les États-Unis vont quand même être extrêmement compliqués vu le niveau de valorisation qu'on a, et que d'un point de vue stratégique, il vaut mieux revenir sur les valeurs européennes.
C'est fini. Merci à tous. Merci Wilfried Gallant qui nous accompagnait, donc responsable de la stratégie de marché chez Neuflize OBC. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Jean-Noël Vieille, stratégiste marché, directeur chef économie chez HPC. Et puis Grégory Volokhin, président de Mescard Financial Services depuis New York, les décodeurs de l'écho qui reviendront évidemment ce jeudi soir.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.